prions. Seigneur, merci. On est dans tes mains, on va passer l'éternité avec toi. Et la réalité de la vie, l'importance d'être enseigné, l'importance de doctrine appliquée dans nos vies, de chaque niveau de doctrine, chaque ligne de doctrine. Le plein conseil de Dieu, la doctrine catégorique agissant. Merci Seigneur de nous enseigner ce soir sur ce sujet très important. Merci. Amen. Ok. Donc, le défi pour un pasteur en 2 Timothée chapitre 4 est toujours en saison et d'eau de saison dans le moment favorable et le moment pas favorable d'enseigner le plein conseil de Dieu et d'enseigner sans compromis. Donc, une question de toujours enseigner, bien sûr, c'est prendre des années d'enseigner tout le conseil de Dieu, le plein conseil de Dieu, mais d'aborder sans crainte, d'aborder sans compromis, d'aborder en sachant que la parole de Dieu est tellement efficace et double tranchant, comme un épée double tranchant, qui peut couper, faire une opération chirurgicale entre l'esprit et l'âme. Et de nous équiper dans ces derniers jours. Donc, le sujet ce soir, c'est pas quelque chose, on peut dire, il est des thèmes plus agréables, plus édifiants, mais c'est un thème important. Je pense que le semence était planté par un commentaire par Helmut sur un sujet, tu vas savoir dans un minute pourquoi je dis ça. Ce soir, je propose de parler d'être livré. Qu'est-ce que la Bible dit? Quel est le sujet d'être livré? Et nous avons, je vais juste tourner là pour trouver un exemple, de livrer quelqu'un ou être livré à une puissance ou une authority. C'est un sujet important. Je juste regarde un verset. En anglais, le mot utilisé souvent est le mot délivrer, d'être délivré à quelque chose, delivered, on dit en anglais. Le mot en grec est paradidomai, 121 fois utilisé dans le Nouveau Testament. Le mot grec, paradidomai, il y a plusieurs significations de ce mot. Le sens, c'est de donner dans un sens. Ça, c'est didomai, en fait, c'est une partie de ça. Mais c'est plutôt de livrer quelqu'un à la puissance de quelqu'un d'autre. Et je regardais ça et j'ai trouvé ce soir un point, un sens de ça avec un exemple. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Et ce soir, je vais aborder 5. Et j'ai profité d'utiliser cette, je ne sais pas si c'est possible pour Eric et pour Julio de voir ça, mais je peux faire une photo après aussi pour envoyer. 5 points. Je vais expliquer chaque point. C'est important de savoir ça dans le plan de Dieu, quand on voit les gens, quand on voit les croyants et on voit les non-croyants. Et le premier, évidemment, je vais aller direct à ce point. Peut-être je vais utiliser aussi de noter le verset. Je pense que ça va être important. Je vais juste regarder verset 1. Ok. Timothée. Paul en train de parler, un pasteur qui parle avec un autre. Ça, c'est le contexte. Premier épître. Oui. OK. Le premier point, je notais le mot Satan. Et on va expliquer ça. 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Paul en train de dire à Timothée, verset 19 pour contexte, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage. Quelqu'un était comme dans un bateau et le bateau est maintenant écrasé contre le rocher. Rappelons que c'était quelque chose qui est passé avec Paul déjà. En voyage à Rome, il était dans un naufrage et le bateau était complètement détruit. Et lui et le parti dans cette l'équipe sur le bateau sont abandonnés sur une île. Mais l'idée est quelqu'un qui est en naufrage, sa foi est comme détruite presque. Est-ce qu'ils ont perdu le salut? Non. On ne peut pas perdre le salut. Ça, c'est quelque chose gardé par Dieu. Mais ils sont dans une situation tellement catastrophique, et je pense que le mot catastrophique est tellement approprié dans ce sens. Verset 20. De cet nombre sont Hyménée et Alexandre, qui j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ok. Croyons, ils sont sauvés. Ils sont des hommes qui ont blasphémé Dieu. On ne peut pas imaginer comment le contexte, mais il est quelque chose ici dans le sens que... Est-ce que je peux utiliser quelque chose pour... Oui. Ça, c'est dans mon possession. Robert, je peux passer ça à toi. J'ai le pouvoir sur ça. Je passe à Robert. Maintenant, il est responsable pour ça. Je suis plus engagé. Et c'est ça qui a passé ici. C'est l'image que je veux proposer à donner. Merci beaucoup, Robert. C'est le fait que, et c'est dramatique de mentionner le nom Satan dans cet verset. Mais il est en train de dire que ces deux hommes maintenant sont dehors de l'Église. Pas dehors de Dieu dans ce sens. Pas dehors comme abandonnés complètement avec aucun espoir. Non, mis dehors dans le sens qu'ils sont plus sous la couverture spirituelle de l'Église. Une église locale, il y a une couverture spirituelle, évidemment, on sait ça. On est bien enseigné sur ça, mais cette idée, comme nous avons la couverture comme un parapluie pour le pluie ce soir en rentrant, en cherchant la voiture, on est couvert, on est protégé des éléments. Et ici, ces deux hommes sont maintenant dehors, exposés en fait, la puissance de Satan. On peut dire, mais Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut savoir quelque chose. Satan est un ange déchu et évidemment très expérimenté, mais il n'est pas la même puissance de Dieu parce qu'il est une création. Il n'est pas comme Dieu, pas dans cet équilibre, cet niveau, on peut dire. Et lui, il est limité parce que Dieu est en contrôle en tout et il peut utiliser Satan quand il a fait avec Job. Lis le livre de Job et tu vois que Job était dans cette, on peut dire, exposé à la puissance de Satan, mais il a des limites. Il était protégé dans un sens. Dieu a dit, Satan, tu peux faire ça, mais pas plus. Ici, cette idée que quelqu'un, ces deux hommes, évidemment, ont tellement troublé le semble que c'était pas sage de laisser ces hommes d'infecter les gens, de troubler le troupeau. Donc, Alexandre Hyménée dort. Maintenant, pour une raison, c'est plutôt rédemptif d'apprendre quelque chose, apprendre de plus blasphémer Dieu, de plus blasphémer Jésus, parce qu'ils sont en train de faire ça. Et on peut dire, mais on comprend pas comment quelqu'un qui peut arriver jusqu'au bout de faire ça et reste sauvé. Bonne question. Peut-être on peut pas répondre à ça parce que c'est un mystère. Qu'est-ce que se passe dans le cœur de quelqu'un? Mais c'est évidemment le cas. qu'ils ont pas abandonné, ok, ils ont mis d'eau, tant pis, c'est fini, non. Paul est en train de dire quelque chose, ils sont d'eau maintenant pour apprendre que s'ils ont resté ici dans l'assemblée, ils sont protégés. Et c'est pas le bâtiment ici, c'est le couverture invisible que Dieu donne par sa parole, par le pupitre, par le pasteur enseignant, par les prières de l'assemblée, par le couverture qui vient dans l'assemblée ensemble, qui protège les autres de sortir de ça. Et quand on expose des éléments d'or, c'est pas d'or physiquement, c'est littéralement d'or dans le sens d'être maintenant livré à ce monde. On a un autre exemple de ça aussi. Et on voit la fin de cette histoire, qu'il y a un homme en train de coucher avec sa belle-mère dans l'église en Corinthe. Et les Corinthiens sont tellement orgueilleux en train de comparer avec les dons. Et Paul a dit, je peux pas donner les compliments et dire bravo, vous avez très bien fait parce que vous êtes en train de comparer avec les autres, certainement complètement ivres pendant la Sainte Cène. Et les autres, complètement, qu'est-ce qu'on peut dire, affamés. Il arrive à l'église et c'était horrible. Et il a dit, en plus, nous avons, et vous êtes élus à Corinthe. Il a dit, vous êtes les saints. Vous êtes les élus dans la ville de Corinthe. Donc, il faut rappeler ça. Mais cet homme en train de coucher avec son belle-mère, sa belle-mère, dort. J'ai déjà dit, il a dit, de mettre lui dehors. Donc, quand on dit amener quelqu'un à Satan, on peut dire, wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de laisser la personne dehors, de dire vous n'avez plus de couverture. Mais le but est rédemptif. Et dans la deuxième lettre pour les Corinthiens, l'épître de Corinthiens, Paul dit, vous avez laissé lui dehors pour un certain temps. C'est le moment de laisser lui dehors entrer maintenant. Afin que Satan ne va pas profiter de cet problème plus. Ça veut dire, il est en train de dire, je sais que cet homme a repenti, il a sorti de ça, maintenant il retourne dans la couverture de l'église. Donc voir que c'est pas dans sa finalité la personne est abandonnée, c'est plutôt de dire que la personne est maintenant dehors, mais est-ce que c'est pour un certain temps? Peut-être la personne peut retourner. Et donc le sens est rédemptif. C'est pas juste Satan, il va utiliser cette personne. Il faut rappeler quand Satan est utilisé aussi contre Pierre. Simon Pierre, je te dis que Satan a cherché pour te cribler. Mais moi, j'ai prié que quand tu es converti, quand tu retournes, fortifie tes frères. Vois comment il y a un sens rédemptif. Dans le premier moment, on dit, wow, livré à Satan. Mais livré à l'autorité, et Satan était utilisé par Dieu. Il faut savoir quelque chose d'autre, comme on a dit de Job. Il est des limites que Dieu fixe. Et si on lit Job, la poésie, c'est magnifique. Comment il met les limites dans la nature créée par lui. Comme il a dit, pour les mers et pour les fleuves, il y a une limite. Jusqu'à ici et pas plus, le déluge, il y a des limites aussi. Il faut savoir que Dieu met des limites. Ça veut dire que Satan n'était pas, il n'avait pas toute puissance. Il était limité et il est toujours limité dans ce monde. Il avait des limites placées. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir des limites dans nos vies qui nous protègent. Ça, c'est le premier. Les autorités, en deuxième sens. Les autorités sur la terre. Judas, en Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Verset 15. Donc, il est en train de parler avec les sacrificateurs. Il a trouvé son moment. Satan est là à sa côté droite, Psalm 119, de chercher cette opportunité. Et Judas dit, c'est le moment. C'est bizarre, parce que Jésus a choisi 12 hommes, mais il a dit, je vous assure que vous êtes choisis par moi. Mais un de vous est un diable. Et ici, dans cette verset, il est dit, et on voit le sens de ce mot paradidomai de nouveau. Verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allait vers les principaux sacrificateurs et dit, que vous voulez me donner et je vous le livrerai. Et ils ont lui payé 30 pièces d'argent. Je crois que ça c'est en... Est-ce que c'est en Zacharie ou en Esaïe? C'est Jérémie, je pense. 30 pièces d'argent pour livrer quelqu'un. Jésus était livré pour 30 pièces d'argent. Je ne sais pas, j'entends le pasteur Chalet dire que c'est quelque chose comme 40 dollars. Donc, près de 40 francs suisses. Pas beaucoup, hein? Pour livrer son maître, le Messie Jésus-Christ, à les autorités civiles. Livrer aux autorités. Donc, ça veut dire Jésus était passé. Il est toujours sous la couverture de son Père, mais il était maintenant mis dans les mains des de pécheurs, les méchants. Les autorités qui cherchent pour le détruire. Et ça, c'est Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14, 18, il a prophétisé la même chose. Je vais être livré aux deux hommes pour être exécuté, pour être crucifié. 13 ans. C'est ça, en fait, le 13 ans. Mais le mot utilisé, livré. Donc, il était, c'est très intéressant de voir ce mot. Et de voir deux fois il était livré. Dans le jardin de Gethsemane, Judas a donné le bisou. Il a donné un bisou. Un baiser, merci. Maître. C'est le signe, c'est le oui. Donc, amené à le palais de Caïphe, où c'était Anne le soir. Après Caïphe, vous le matin, après c'est le Sanhédrin. Donc il passe entre une autorité et l'autre. Premièrement, c'était Anne, je pense. Deuxièmement, Caïphe. Maintenant, c'est le Sanhédrin, 70 ans. 72, je pense. Deux hommes, il est devant eux. Après, il a été livré à Pilate. Et on peut voir, il passe entre une autorité et l'autre. Livré, Pilate a passé le, qu'est-ce qu'on dit? Il a essayé de viter la responsabilité, donc il a passé à Hérode. Hérode retourné à Pilate, donc c'était plutôt, je préfère pas d'être engagé avec ces problèmes, je ne veux pas toucher. On dit comme un hot potato, comme une patate chaude, tu ne veux pas prendre trop long, donc tu passes comme ça. Et lui, c'était un peu comme ça, je pense. Les gens, c'est, je veux que tu lui, Pilate, tu lui, c'est à toi de faire. Donc ils ont fait tout ça, mais la notion ici d'être passé d'une authority, d'être livré à quelqu'un d'autre. Matthieu chapitre 24 et 25 parle aussi de un jour tu vas être livré aux authorities, en train de parler aux Juifs. Bien sûr, il parle avec les disciples, il dit certain ou la fin de temps, Matthieu 24, certain va vous trahir et vous êtes amené, livré aux autorités et vous avez un témoignage de donner de Jésus-Christ. Donc, en face de cette potentiellement d'être persécuté, exécuté, livrer les autorités, mais c'est une opportunité de proclamer Christ. Donc encore, livrer, donner aux autorités, mais il faut savoir, Jésus était totalement en contrôle jusqu'à la fin. il était en contrôle. Pas Pilate, pas Caïphe, pas Anne. Jésus-Christ complètement. C'est lui qui a dit rien quand les gens accusaient. C'est lui qui était sur le croix, qui a posé sa tête. Après, il a dit, je donne mon esprit. C'était pas, il était juste tué. Il a donné son esprit au Père. Voir dans ce contexte, pour nous, si on est livré aux autorités, Dieu est toujours en contrôle. Confronté avec Pilate, Jésus a dit, c'est pas toi qui as la puissance de me tuer. Moi, je suis devant toi. Mais j'ai la puissance et je suis un roi et je suis venu pour proclamer la vérité. Pilate était affreux, un peu craintif, parce qu'il a vu que Jésus a dit, moi, mon Père en contrôle ici, moi aussi. Et vous, pas de tout. Voir l'assurance devant le mal, les autorités mal. Nous avons un Dieu qui est en contrôle. On peut être livré aux autorités, mais Dieu va toujours avoir le dernier mot. Quand on voit les injustices, il faut rester sûr un jour la justice finale, ultime, va être faite par Jésus-Christ. Et chacun qui a fait les injustices va être devant lui, devant ses yeux perse comme ça, qui sont doux maintenant, mais un jour, comme les Lazare qui va percer, les gens ne peuvent pas supporter de voir ça. Et donc, l'importance de déclarer Christ maintenant sur la terre, avant c'est trop tard. Troisième point. Livrés aux souffrances, nous sommes collaborateurs avec Christ. De Ephésiens chapitre 2, verset 10. Les œuvres préparées par Christ en avance afin qu'on va marcher. Ça veut dire, il est avec nous et c'est une collaboration, mais aussi co-souffrance. On est livré de ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Très intéressant ce verset. J'étais en train de gratter ma tête aujourd'hui en train de lire ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Je vais juste mettre ça sur mes yeux. Cette fameuse passage parle de le fait qu'on est en train d'être pressé, mais pas écrasé. Et Paul est en train de dire, mais nous, nous souffrons pour Christ. C'est chapitre 10 et 11. Chapitre 4, pardon, verset 10 et 11. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans nos corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi que la mort agit en nous et la vie agit en vous. Plusieurs possibilités ici. Et la première intéressante, notre vie, on accepte de mettre à côté l'ancienne vie avec ses désirs, avec ses impulsions, avec sa désir d'être toujours correct. J'ai toujours raison, n'est-ce pas? C'est pas les autres. Et cet esprit qui reste dans mon ancienne nature, je dois déclarer mort et mort sur la croix avec Christ. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de vivre pour moi-même. Maintenant, je vis pour lui en gloire. Donc, cet sens est le premier sens. Le deuxième sens, en fait, est que Paul est en train d'aider chaque jour. Le fait qu'on vit pour Christ, on est en danger d'être tué, persécuté, amené en prison. Et plusieurs fois, Paul était en prison. Il dit, je accepte ça afin que vous pouvez vivre. Et en plus, cette attitude d'être toujours prêt, n'importe quelle circonstance et d'accepter de vivre avec tellement de liberté. En prison, Actes chapitre 16, en Philippines. Mais il faut savoir qui était dans la prison et qui était plus libre. Le geôle était le libre, mais elle était libre ici ou pas. Les autorités qui ont mis Paul en prison avec Silas, qui était libre et qui était esclave, qui était emprisonné. Paul était l'homme le plus libre. Il était en prison, mais il était libre ici. Plusieurs gens sur la terre en train de marcher maintenant, ils sont pas libres. En pleine liberté, mais certains qui sont persécutés pour sa foi, en prison, sont plus libres que les gens qui sont mis dans la prison. Il faut considérer ça quand on voit les circonstances. On ne marche pas par le vœu. Et donc, on voit quelqu'un qui est plus riche, plus privilégié, plus éloquent, plus peut-être favorisé dans la vie, et certains sont pas. Mais c'est pas une question de l'externe. L'homme regarde l'externe, mais Dieu regarde le cœur. Et il a dit, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est une femme de Dieu, après le cœur de Dieu. Ils sont les plus libres gens sur la terre. Donc, d'accepter de souffrir est une forme de liberté. J'accepte d'être livré, de vivre comme ça. Et c'est un privilège pour Paul qui a dit, Philippiens chapitre 3, verset 10, afin que je puisse connaître Christ. Et je peux vivre avec la puissance de Christ dans sa résurrection. Mais il a dit une deuxième chose. Afin aussi d'expérimenter la communion de souffrance avec Christ. Ça veut dire Christ a souffert et nous aussi. C'est une bénédiction en forme, parce que si on passe à côté de la souffrance, on va jamais comprendre les cœurs des gens. Ceux qui souffrent pour le règne de Dieu sont plus honorés par leur Père. Parce qu'on entre devant sa présence, il est dit bravo. Le courant de la vie est pour ceux qui souffrent. Je crois aussi le deuxième, c'est le Morning Star Order, l'ordre de ceux qui sont de la l'étoile de la matin. Donc aussi, ça c'est pour que ceux qui souffrent énormément. Et ça c'est, on peut dire par la vue, mais Dietrich Bonhoeffer, quel est son nom en Roumanie, toujours, j'oublie son nom, le pasteur, prison, torture for Christ, Richard Wurmbrand. L'homme extraordinaire, co-souffrance avec Christ, en train de chanter et glorifier Dieu dans une salle, dans une prison, dans un cellule, en train de faire juste ça avec les chiens, en train d'adorer Dieu. Ils ont fait le Saint-Saint avec rien. Ils ont dit, je boue le jus, mais c'était imaginaire, mais c'était pas imaginaire. Et je mangeais le pain qui représente le corps de Christ, mais c'était dans le cœur. Ils ont tous fait ça ensemble. Qui était le plus libre? Les communistes roumains qui sont mis en prison, ou c'est ceux qui sont dans la prison en train de glorifier Dieu? Souffrance pour Christ, mais avec la récompense inimaginable. Il faut savoir quelque chose d'autre. 2 Corinthiens chapitre 4, ceux qui sont brisés, le vrai trésor commence à dégager. Le parfum dans le chapitre 2, il est un parfum. On est en train de dégager ce parfum de la vie. Pour certains, c'est le mort. Oh, c'est horrible, c'est chrétien. Et pour certains, c'est la vie. Oh, c'est tellement agréable. Il faut savoir, on veut savoir Christ. On voit les visages des gens, peut-être si on, quelqu'un en train de marcher qui est dégoûté. Dégoûté par le fait qu'on est chrétien, qu'on est Christ, qu'on déclare Christ. Et Christ crucifié, et les gens sont attirés à la lumière. Et on brille la lumière de Christ. Et certains disent, oh, comme j'ai vu un homme, la dernière fois, qui était dégoûté, il a parlé en suisse allemand, j'ai pas compris, il a pas parlé en français, mais il a, Il a marché. Des fois, du goûter, mais certains qui voient qu'on est en souffrance, le parfum est dégagé et les gens disent, oh. Et si on fait ça sur la terre, quelle est la chose qui sont possibles? Quatrième est fort, tellement fort. Luc, Matthieu chapitre 18, verset 34. Je vais juste voir le temps. Matthieu 18. 18, verset 34. Matthieu chapitre 18, 34. Cette parabole est très importante. Le serviteur qui a une dette vers le maître. La dette est énorme, personne ne peut payer ça. Et lui, il a demandé pardon et le maître a pardonné. Et le deuxième serviteur, il a sorti pardonné. Le serviteur tourné et voit un deuxième serviteur qui a une dette tellement petite. Et il a dit, pardonne-moi, aide-moi, je peux pas payer maintenant. Donne plus de temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non! Il a mis dans la prison. Et après, le maître a découvert ça parce que les autres serviteurs sont horriblement choqués. Et évidemment, le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il met le premier serviteur en prison. Et le verset dit ça. Je livrerai toi et les tourmenteurs jusqu'à la dette et paye entièrement. Et Christ a dit, et Dieu va faire la même chose pour nous si on ne pardonne pas. Le manque de pardon va détruire beaucoup plus que le cancer dans cette vie. Les gens meurent de cancer, mais je vous assure, un manque de pardon est beaucoup plus fatal pour les gens. Si on vit sans le pardon, c'est une vie avec comme une bombe qui est en train de tic, 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 tic. Les impacts dans notre corps, l'impact dans nos pensées, l'impact dans la santé physique et psychologique pour quelqu'un qui garde et refuse de pardonner. Combien de fois j'ai entendu une horreur, une injustice, quelqu'un qui a été tué et c'est injuste et Dieu déteste ça. Mais les personnes, ce sont les familles qui sont les victimes. C'est pas juste. Et il dit, on ne peut jamais pardonner. Mais j'entends en États-Unis un homme qui a entré dans une église African-American, donc des Américains d'origine africaine. Et cet homme, il est resté dans la salle quand ils ont fait une réunion de prière, une étude biblique. Il était là 30 minutes. Les gens, il était blanc, donc il entrait dans une église africaine. Il entre dans l'église, il était là 30 minutes. Il avait une arme avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tuer les gens. Et j'ai entendu moi-même les paroles de les gens dans le tribunal qui la famille, ils ont dit, oh, c'est le douleur, tu as volé notre cher membre de famille. Irréplaçable, pas possible de replacer, cette personne est morte. Mais Christ, on est enseigné dans notre église de pardonner, je te pardonne. Et je t'implore d'accepter le salut de Christ. J'entends de ça. C'était 2014. On était à Baltimore pour la conférence. Je m'appelle ça. Et le pardon est plus puissant. C'est pas pour dire on est d'accord. C'est pas donner à être mes amis avec les gens qui ont fait des choses. Et c'est les petites choses des fois. Pas juste les grandes choses. On peut dire, mais ça c'est horrible. Mais je écrase la voiture de mon père. C'est pas le cas, mais je vais avoir un accident avec quoi tu es mon père. Mon père est en colère. C'est pas passé, mais c'est juste de donner une illustration. Et mon père vit avec ça pour 30 ans. Ou j'ai un problème répétitif dans mon mariage avec ma femme et en colère parce que je mets la toilette le siège de toilette comme ça, et elle qui fait comme ça. Et on fait ça pour 30 ans, et elle en colère. Et le pardon, le manque de pardon, je n'avais jamais pardonné. Mon... Vois comment c'est ridicule, c'est tellement petit. Mais l'effroi et les tourmenteurs, l'homme qui était en enfer, dans le... c'était en fait le Jésus, Lazare et l'homme riche. Il a dit, je suis tourmenté dans cette flamme. On peut être tourmenté par notre conscience parce qu'on ne peut pas pardonner. On va être tourmenté, mais on va être libre. Quelqu'un peut vivre dans un lieu magnifique et joli, mais le cœur, il n'a pas de pardon. Donc, c'est comme le monde est gris, noir et blanc, monochrome, on dit en anglais. Ça veut dire, toutes les couleurs, les autres peuvent voir, je peux pas voir. Le sang d'une fleur, mais je peux pas apprécier. Le couche d'un soleil, mais je peux pas voir ça. Et quelqu'un d'autre, juste à côté de moi, en train de profiter de ça. Mais à cause de ça, je vis une vie limitée. Et Dieu ne veut pas ça. Pardonne les autres. Pardonne rapidement. Christ a nous pardonné de les choses en effet contre lui. On est tous responsables pour la crucifixion de Christ. On est tous responsables pour être le rebelle contre Dieu. Et il nous a pardonné. Il n'a pas attendu pour nous de tourner. Romains chapitre 5. Il a fait ça avant pour nous. Et ça, c'est le mot manifesté. Et donc, un manque de pardon. Pour le non-croyant, c'est normal, des fois on essaie de vivre avec pardon, des fois pas. D'essayer de pardonner. Mais pour le chrétien qui a accepté qu'on est pardonné par Christ, on doit pardonner les autres. Dans une église, c'est absolument essentiel. Moi, je ne peux pas servir comme pasteur si je n'ai pas le pardon dans mon cœur. Si je vis dans la colère contre les membres, moi je vais être amer, aigri. Je vais être, le colère va sortir de moi et ça va être taché et soyez les gens parce qu'il écoute les choses. Soyez, soyez les gens. Je ne veux pas que c'est ça. Et si on vit comme ça, qu'est-ce que va sortir de la bouche? Est-ce que l'amour va sortir? Est-ce que ma vie va dégager ça ou pas? Non, ma vie va dégager le poison. Quelque chose qui va détruire les autres. Et on ne peut pas vivre comme ça. Livré d'être tourmenté jusqu'à la dette est payée. Pardonne les autres. Je parle pour moi, je dois pardonner les autres aussi. Christ a nous pardonné. On a une dette immense qu'on ne peut pas payer. C'était donné. On est gracié, on a reçu la grâce. C'est un mystère. On a tué Christ, on est des rebelles, on était les fils de désobéissance, Ephésiens chapitre 2. Et il a nous pardonné. Maintenant, on entre dans la plénitude de la vie, réconcilié avec lui. Et ainsi, on peut être quelqu'un qui vit comme ça. Et on peut dire, mais Christ est mort pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre dans ces ténèbres. Il est là afin que tu peux vivre. Jean chapitre 8, verset 32, c'est un verset que j'avais dans mon cœur ce matin. Pour une raison, je ne comprends pas quand je suis se levé ce matin. Que si on marche et suit sa parole et suit lui, on va être libre. On va vivre une vie de liberté en marchant avec lui, d'être libéré de nous-mêmes. Et le dernier, à soi-même. Romains chapitre 1, verset 24, verset 26, verset 28. Cette fameuse passage qui parle de les gens qui sont livrés parce qu'ils refusent d'accepter Christ. Ils voient Dieu dans la création. Ils voient Dieu partout. Mais ils refusent. Ils cachent la vérité. En refusant, c'est une attitude et une décision de refuser Christ. En plus de ça, c'est de cacher les évidences afin que les autres ne peuvent pas. Quand on entend quelqu'un dire, je ne veux pas accepter Christ, quelqu'un dit, ça m'intéresse pas. Je suis pas d'accord. OK. Mais quand la personne dit, vous avez pas le droit de venir ici, on dit, mais vous êtes le chef de le monde? Vous prenez l'autorité sur les autres? Oui. Vous saviez qu'il y a quelqu'un qui vit dans une prison de manque de pardon, peut-être 500 mètres de vous. Et vous pensez que vous avez le droit d'imposer ton avis afin que cette personne reste en prison. Cette attitude de rébellion contre Dieu et faire une campagne, de faire une mission contre Christ. Et Dieu dit, ces gens sont livrés à eux-mêmes. Et quand on voit l'homosexualité et le lesbianisme, on voit tout ce qui est dégagé de ça et des activistes qui poussent plus avec l'esprit de Sodome, de pousser contre la porte, d'essayer d'écraser l'autre pour entrer dans la maison. Cet même esprit qui refuse, qui toujours va plus, plus, plus. Et on dit ça, et on voit ça. Et c'est une conséquence dans un sens. C'est-à-dire que c'est une conséquence que Jésus décrit. OK, vous avez refusé ma grâce. Vous voulez vivre toutes les bénédictions sur la terre, de l'amour, de la soleil, de les vacances, de les belles montagnes, d'avoir la générosité et l'hospitalité. Vous refusez toutes ces choses. En fait, vous profitez de ces choses, mais refusez le Dieu qui donne ces choses. En pensant que la vie dehors de Dieu est une vie agréable. Non, la vie dehors de Dieu s'appelle enfer. Et ça, sans toutes ces choses que j'ai décrites pour éternité. Tourmenté là pour éternité dans un lieu avec rien. Et le feu et la conscience toujours en train de travailler. Donc ces gens vivent indépendamment pour un moment, livrés à de vivre pour eux-mêmes. Et la chose la plus horrible est ça. Comme quand en chapitre 4 de Genèse, il a parti et quitté la présence de Dieu. Wow! Il a parlé avec Dieu et tout ce qu'il a dit, c'est des reproches. Tout ce qu'il a dit, c'est de les plaindre. Il a tué son propre frère. Il a planifié ça avec le colère. Ce n'était pas juste une réaction. Il avait colère contre Dieu. Donc, il a colère contre Abel. Et après parler de Dieu, il quitte la présence de Dieu pour toujours. Deuxième personne. Le frère de Jacob. Toujours, j'ai un problème de prononcer son nom. Ésaü. Ésaü, en colère parce que Jacob a volé le doigt d'aînesse et doit voler la bénédiction. OK. Mais Louis Hébreu finit avec le dernier commentaire sur Louis, un adultère et un homme vain, possessif qui veut gagner tout. Il a dit, touche pas ce type de gens, rien à faire avec eux. En train de dire que son cœur n'a pas changé. Cherche de tuer son frère Jacob en fuite, envoyé par Rachel, vers son Laban, son oncle. En retournant, en confrontant son frère, il veut son frère Ésaü, content, dit, pas besoin de des cadeaux, on va marcher avec toi, j'ai tout que je veux. Oui, tu as tout, mais tu n'as pas Dieu. Et tu es satisfait. Une caractéristique de quelqu'un comme ça est 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Le conscience cauterisée. Je parlais avec Isabelle hier soir en train de marcher. Et je trouvais un excellent exemple de ça. Les lépreux, la condition de léprosie, d'être lépreux, c'est en fait une maladie progressive que les nerfs commencent à mourir. Ça veut dire que la personne toujours a les mains, les extrémités, mais progressivement perdre le sens. Je ne peux pas sentir. Donc, j'ai quelque chose chaud ou je suis en train de couper quelque chose. Qu'est-ce que ça va passer? La douleur est bien parce que c'est un indicateur. Quelque chose, il y a un problème ici. Ah, tu as coupé la main. Tu as brûlé. Ah. Mais quand tu as progressivement ces conditions, tu touches et tu ne réalises pas. La douleur est une protection. Mais maintenant, tu n'as plus ça. Donc, l'extrémité commence à brûler, d'être endommagée et plus de plus blessée. Donc, c'est pourquoi on voit avec les lépreux perdre ça aussi, ça, progressivement. Quelqu'un qui vit comme ça, à soi-même, et comme ça, spirituellement, cauterise dans le. La chose la plus horrible dans la conscience est la personne sans pas. La peur, le respect, la culpabilité, un sens de honte. Cette personne est maintenant déchaînée, en train de vivre pour elle-même. Et tu sais, voir, des fois, on voit les gens qui n'ont aucune honte. Ils font des choses absolument. Qu'est-ce qu'on dit? Absolument répréhensible, tellement horrible, mais aucun sens de conscience. Progressivement en train d'avancer dans ce chemin. Mais, waouh! Dieu laisse les gens de vivre comme ça, bien sûr, il a la souveraineté de couper ça dans un moment comme il a fait à Sodome, afin que ce pas infecte les autres. Il fait certaines des fois, il livre les gens eux-mêmes et après il dit, c'est fini. Je peux pas vous laisser de blesser plus de gens. Je peux pas accepter de laisser ça. Mais qu'est-ce que s'est passé? Quand tout ce temps de construire une société, une civilisation, une ville, son petit-fils qui a tué un homme jeune, qui est le blessé et qui a vanté de ça. Donc, je voudrais juste montrer ça pour conclure. Des fois, on peut dire, laisse-moi l'espace. Quelle est l'expression, laisse-moi tranquille? Laisse-moi tranquille, je sais que des fois on dit, laisse-moi tranquille. Quand ma mère fait des choses, des fois, elle dit, je dis, laisse-moi tranquille quand j'étais un ado, laisse-moi tranquille. Mais dans un sens, je ne vais pas laisser tranquille parce que si je laissais cette tranquillité, je vais avoir peur que maintenant il n'y a plus de limite de protection. La chose, on peut demander le plus horrible de Dieu et laisse-nous tranquille dans nos vies parce que je vais avoir des limites dans ma vie. Je veux que Dieu me protège. Je préfère la main qui est disciplinée mais l'amour de Dieu. Pour ma vie, et bien sûr, des claques de temps en temps spirituellement, et une conscience qui m'a troublé des fois, je préfère ça, d'avoir rien, pas de sens de trouble en conscience. Je préfère de ne pas être livré à moi-même. Ça, c'est la chose la plus horrible. Et donc, la bonne nouvelle est on n'est pas livré de ça. Et on ne va jamais être livré. S'il est quelque chose, c'est à la souffrance peut-être. Mais d'être livré à la puissance de Dieu, pas dehors de la présence de Dieu. Donc, pour nous, l'importance de toucher le plus de gens possible. Avant, c'est trop tard, parce que certains passent les limites, ils sont toujours vivants. Mais ils ont passé la ligne et Dieu a dit, c'est fini. C'est juste une question de temps. Exemple, Nabal et Abigail. Nabal qui est en train de manger. Abigail qui a sauvé la maison parce qu'il a dit quelque chose et David était prêt pour le tuer. Elle a dit, wow, tu es mieux que ça. Laisse Nabal à Dieu. Qu'est-ce que s'est passé? Crise cardiaque, comme un pierre, comme ça, cœur, et quelques jours après, il meurt. Quelqu'un avec aucun sens de honte. Livré lui-même. Et donc juste de savoir. Le sens d'être livré, et c'est Dieu qui fait, et les choses que Dieu fait est bon. Il aime les gens. Il ne veut pas que les gens vivent comme ça. Donc, continuons de vivre et d'aimer les limites que Dieu place dans nos vies parce que c'est pour notre protection. D'avoir une protection. Ma femme, j'aime ma femme. Et j'aime qu'elle est protégée par Dieu, qu'elle prend son scooter. Et j'aime des fois que quand les choses passent dans nos vies, et peut-être on pense « ouch », c'est comme une forme de Dieu dire « écoute, quelque chose de pire peut passer, mais ce n'était pas. Je suis en contrôle dans ta vie. Dieu est en contrôle dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vois le temps, je suis désolé que j'ai passé. Mais merci pour votre attention ce soir. Seigneur, bénis notre parole. Bénis cette parole maintenant et notre retour à la maison. Et on est juste reconnaissant pour Christ en nous. L'avenir avec toi pour l'éternité. L'amour qui nous presse, qui nous limite, mais qui nous protège. Praise you, Jesus. Merci, Seigneur. Amen.